De l'exercitation. Chapitre 6. Il est malaisé que la raison et l'instruction, encore que notre croyance s'y applique volontiers, soient assez puissantes pour nous acheminer jusqu'à l'action, si outre cela nous n'exerçons et formons notre âme par expérience au train auquel nous la voulons ranger. Autrement, quand elle sera au propre des effets, elle s'y trouvera sans doute empêchée. Voilà pourquoi parmi les philosophes, ceux qui ont voulu atteindre à quelque plus grande excellence ne se sont pas contentés d'attendre à couvert et en repos les rigueurs de la fortune, de peur qu'elle ne les surprît inexpérimentés et nouveaux au combat, mais ils lui sont allés au-devant et se sont jetés à escient à la preuve des difficultés. Les uns en ont abandonné les richesses pour s'exercer à une pauvreté volontaire, les autres ont recherché le labeur et une austérité de vie pénible pour se durcir au mal et au travail. D'autres se sont privés des parties du corps les plus chères, comme de la vue et des membres propres à la génération, de peur que leur service trop plaisant et trop mou ne relâchât et n'attendrît la fermeté de leur âme. Mais à mourir, qui est la plus grande besogne que nous ayons à faire, l'exercitation ne nous y peut aider. On se peut, par usage et par expérience, fortifié contre les douleurs, la honte, l'indigence et tels autres accidents, mais quant à la mort, nous ne la pouvons essayer qu'une fois. Nous y sommes tous apprentis quand nous y venons. Il s'est trouvé anciennement des hommes si excellents ménagers du temps qu'ils ont essayé en la mort même de la goûter et savourer, et ont bandé leur esprit pour voir que c'était de ce passage. Mais ils ne sont pas revenus nous en dire les nouvelles. Nul au réveil ne se lève une fois que l'a atteint la froide pause de la vie. Canius Julius, noble romain de vertu et fermeté singulière, ayant été condamné à la mort par ce maraud de Caligula, outre plusieurs merveilleuses preuves qu'il donna de sa résolution, comme il était sur le point de souffrir la main du bourreau, un philosophe, son ami, lui demanda « Eh bien, Canius, en quelle démarche est à cette heure votre âme? Que fait-elle? En quelle pensée êtes-vous ? » « Je pensais, lui répondit-il, à me tenir prêt et bandé de toute ma force pour voir si, en cet instant de la mort, si court et si bref, je pourrais apercevoir quelque délogement de l'âme et si elle aura quelque sentiment de son issue pour, si j'en apprends quelque chose, en revenir donner après, si je puis, avertissement à mes amis. » Celui-ci philosophe non seulement jusqu'à la mort, mais en la mort même. Quelle assurance était-ce, et quelle fierté de courage de vouloir que sa mort lui servît de leçon et avoir loisir de penser ailleurs en une si grande affaire. Il avait encore cet empire sur son âme expirante. Il me semble toutefois qu'il y a quelque façon de nous apprivoiser à elle, et de l'essayer quelque peu. Nous en pouvons avoir expérience, sinon entière et parfaite, au moins telle qu'elle ne soit pas inutile et qui nous rende plus fortifiés et assurés. Si nous ne la pouvons joindre, nous la pouvons approcher, nous la pouvons reconnaître. Et si nous ne donnons jusqu'à son fort, au moins verrons-nous et en pratiquerons les avenues. Ce n'est pas sans raison qu'on nous fait regarder à notre sommeil même pour la ressemblance qu'il a de la mort. Combien facilement nous passons du veiller au dormir, avec combien peu d'intérêt nous perdons la connaissance de la lumière et de nous. À l'aventure pourrait sembler inutile et contre nature la faculté du sommeil, qui nous prive de toute action et de tout sentiment. N'était que pari celui, nature nous instruit qu'elle nous a pareillement fait pour mourir que pour vivre, et dès la vie nous présente l'éternel état qu'elle nous garde après Icel pour nous y accoutumer et nous en ôter la crainte. Mais ceux qui sont tombés par quelque violent accident en défaillance de cœur et qui y ont perdu tout sentiment, ceux-là, à mon avis, ont été bien près de voir son vrai et naturel visage. Car quant à l'instant et au point du passage, il n'est pas à craindre qu'il porte avec soi quelque travail ou déplaisir, d'autant que nous ne pouvons avoir nul sentiment sans loisir. Nos souffrances ont besoin de temps qui est si court et si précipité en la mort, qu'il faut nécessairement qu'elle soit insensible. Ce sont les approches que nous avons à craindre, et celles-là peuvent tomber en expérience. Plusieurs choses nous semblent plus grandes par imagination que par effet. J'ai passé une bonne partie de mon âge en une parfaite et entière santé. Je dis non seulement entière, mais encore allègre et bouillante. Cet état, plein de verdeur et de fête, me faisait trouver si horrible la considération des maladies que, quand je suis venu à les expérimenter, j'ai trouvé leurs piqûres molles et lâches au prix de ma crainte. Voici ce que j'éprouve tous les jours. Suis-je à couvert chaudement dans une bonne salle pendant qu'il se passe une nuit orageuse et tempétueuse? Je m'étonne et m'afflige pour ceux qui sont l'or en la campagne. Y suis-je moi-même? Je ne désire pas seulement d'être ailleurs. Cela seul, d'être toujours enfermé dans une chambre, me semblait insupportable. Je fus immédiatement dressé à y être une semaine et un mois, plein d'émotions, d'altérations et de faiblesses, et ai trouvé que lors de ma santé, je plaignais les malades beaucoup plus que je ne me trouve à plaindre moi-même quand j'en suis, et que la force de mon appréhension enchérissait près de moitié l'essence et vérité de la chose. J'espère qu'il m'en adviendra de même de la mort, et qu'elle ne vaut pas la peine que je prends à tant d'apprêts que je dresse, et tant de secours que j'appelle et assemble pour en soutenir l'effort. Mais à toute aventure, nous ne pouvons nous donner trop d'avantages. Pendant nos troisièmes troubles, ou deuxièmes, il ne me souvient pas bien de cela, m'étant allé un jour promener à une lieue de chez moi, qui suis assis dans le moyeu de tout le trouble des guerres civiles de France, estimant être en toute sûreté et si voisin de ma retraite que je n'avais point besoin de meilleur équipage, j'avais pris un cheval bien aisé, mais non guère ferme. À mon retour, une occasion soudaine s'étant présentée de m'aider de ce cheval à un service qui n'était pas bien de son usage, un de mes gens grand et fort, monté sur un puissant roussin qui avait une bouche désespérée, frais au demeurant et vigoureux, pour faire le hardi et devancer ses compagnons, vint à le pousser à toute bride droit dans ma route et fondre comme un colosse sur le petit homme et petit cheval et le foudroyer de sa raideur et de sa pesanteur, nous envoyant l'un et l'autre les pieds contre mon. Si bien que voilà le cheval abattu et couché, tout étourdi, moi, 10 ou 12 pas au-delà, étendu à la renverse, le visage tout meurtri et tout écorché, mon épée que j'avais à la main à plus de 10 pas au-delà, ma ceinture en pièces, n'ayant ni mouvement ni sentiment, non plus qu'une souche. C'est le seul évanouissement que j'ai senti jusqu'à cette heure. Ceux qui étaient avec moi, après avoir essayé par tous les moyens qu'ils purent de me faire revenir, me tenant pour mort, me prirent entre leurs bras et m'emportaient avec beaucoup de difficulté en ma maison, qui était loin de là, environ à une demi-lieue française. Sur le chemin, et après avoir été plus de 2 grosses heures tenu pour trépasser, je commençais à me mouvoir et respirer, car il était tombé si grande abondance de sang dans mon estomac que pour l'en décharger, nature eut besoin de ressusciter ses forces. On me dressa sur mes pieds, où je rendis un plein seau de bouillon de sang pur, et plusieurs fois par le chemin, il m'en fallut faire de même. Par là, je commençais à reprendre un peu de vie, mais ce fut par le menu et par un si long trait de temps que mes premiers sentiments étaient beaucoup plus approchants de la mort que de la vie. Car incertain encore de son retour, l'esprit stupéfait ne peut s'affermir. Cette recordation que j'en ai, fort empreinte en mon âme, me représentant son visage et son idée si près du naturel, me concilie quelque peu à elle. Quand je commençais à y voir, ce fut d'une vue si trouble, si faible et si morte, que je ne discernais encore rien que la lumière. Comme celui qui tantôt ouvre, tantôt ferme les yeux, à mi-chemin du sommeil et de la veille. Quant aux fonctions de l'âme, elles naissaient avec même progrès que celles du corps. Je me vis tout sanglant, car mon pourpoint était taché partout du sang que j'avais rendu. La première pensée qui me vint, ce fut que j'avais une arquebusade dans la tête. De vrai, en même temps, il s'en tirait plusieurs autour de nous. Il me semblait que ma vie ne me tenait plus qu'au bout des lèvres. Je fermais les yeux pour aider, ce me semblait, à la pousser hors, et prenais plaisir à m'alanguir et à me laisser aller. C'était une imagination qui ne faisait que nager superficiellement en mon âme, aussi tendre et aussi faible que tout le reste, mais, à la vérité, non seulement exempte de déplaisir, mais mêlée à cette douceur que sentent ceux qui se laissent glisser au sommeil. Je crois que c'est ce même état où se trouvent ceux qu'on voit défaillants de faiblesse en l'agonie de la mort. Et tiens que nous les plaignons sans cause, estimant qu'ils soient agités de grièves douleurs ou avoir l'âme pressée de cogitations pénibles. Ça a été toujours mon avis, contre l'opinion de plusieurs, et même d'Étienne de la Boétie, que ceux que nous voyons ainsi renversés et assoupis aux approches de leur fin, ou accablés de la longueur du mal, ou par accident d'une apoplexie ou mal caduque, souvent terrassé par la force du mal, un homme, comme frappé de la foudre, s'écroule sous nos yeux. Il écume, gémit et frémit de tous ses membres, il délire, raidit ses muscles, se tord, halète et épuise son corps en mouvement désordonné. Ou blessé en la tête, que nous aurions grommelé et rendre parfois des soupirs tranchants, quoique nous en tirons quelques signes par où il semble qu'il leur reste encore de la connaissance, et quelques mouvements que nous leur voyons faire du corps, j'ai toujours pensé, dis-je, qu'ils avaient et l'âme et le corps ensevelis et endormis. Il vit sans avoir lui-même conscience de vivre. Et ne pouvait croire qu'à un si grand étonnement de membres et si grande défaillance d'essence, l'âme put maintenir quelque force au-dedans pour se reconnaître, et que par ainsi il n'avait aucun raisonnement qui les tourmentât et qui leur pût faire juger et sentir la misère de leur condition, et que, par conséquent, ils n'étaient pas forts à plaindre. Je n'imagine aucun état pour moi si insupportable et horrible que d'avoir l'âme vive et affligée, sans moyen de se déclarer, comme je dirais de ceux qu'on envoie au supplice, leur ayant coupé la langue, si ce n'était qu'en cette sorte de mort la plus muette me semble la mieux séante, si elle est accompagnée d'un ferme visage et grave, et comme ces misérables prisonniers qui tombent aux mains des vilains bourreaux soldats de ce temps, desquels ils sont tourmentés de toute espèce de cruel traitement pour les contraindre à quelque rançon excessive et impossible, tenus cependant en condition et en lieu où ils n'ont moyen quelconque d'expression et signification de leurs pensées et de leur misère. Les poètes ont feint quelque dieu favorable à la délivrance de ceux qui traînaient ainsi une mort languissante. J'emporte par ordre ce cheveu consacré à 10 et te délie de ton corps. Et les voix et réponses courtes et décousues qu'on leur arrache quelquefois, à force de crier autour de leurs oreilles et de les tempêter, ou des mouvements qui semblent avoir quelque consentement à ce qu'on leur demande, ce n'est pas témoignage qu'ils vivent pourtant au moins une vie entière. Il nous advient ainsi sur le bégaiement du sommeil, avant qu'il nous ait du tout saisi, de sentir comme en songe ce qui se fait autour de nous et suivre les voix, d'une ouïe trouble et incertaine, qui semble ne donner qu'au bord de l'âme, et faisons des réponses à la suite des dernières paroles qu'on nous a dites, qui ont plus de fortune que de sens. Or, à présent que je l'ai essayé par effet, je ne fais nul doute que je n'en ai bien jugé jusqu'à cette heure. Car, premièrement, étant tout évanoui, je me travaillais d'entr'ouvrir mon pourpoint à beaux ongles, car j'étais désarmé, et pourtant je sais que je ne sentais en l'imagination rien qui me blessât. Car il y a plusieurs mouvements en nous qui ne partent pas de notre ordonnance. À demi-mort, les doigts tressaillent et ressaisissent le fer. Ceux qui tombent élancent ainsi les bras au devant de leur chute, par une naturelle impulsion qui fait que nos membres se prêtent des offices et ont des agitations à part de notre raison. On dit que les chars armés de faux tranchent les membres de sorte qu'on en voit palpiter à terre les tronçons tombés avant même que l'esprit et la force vitale de l'homme, tant le coup est rapide, puissent en ressentir la douleur. J'avais mon estomac pressé de ce sang caillé, mes mains y couraient d'elles-mêmes, comme elles font souvent où ils nous démangent, contre la vie de notre volonté. Il y a plusieurs animaux, et des hommes même, après qu'ils sont trépassés, auxquels on voit resserrer et remuer des muscles. Chacun sait par expérience qu'il a des parties qui se branlent, dressent et couchent souvent sans son congé. Or ces passions, qui ne nous touchent que par l'écorce, ne se peuvent dire nôtres. Pour les faire nôtres, il faut que l'homme y soit engagé tout entier, et les douleurs que le pied ou la main sentent pendant que nous dormons ne sont pas à nous. Comme j'approchais de chez moi, où l'alarme de ma chute avait déjà couru, et que ceux de ma famille m'eurent rencontré avec les cris accoutumés en telle chose, non seulement je répondais quelques mots à ce qu'on me demandait, mais encore ils disent que je m'avisais de commander qu'on donnât un cheval à ma femme, que je voyais s'empêtrer, se tracasser dans le chemin qui est montueux et malaisé. Il semble que cette considération dût partir d'une âme éveillée. Et pourtant, je n'y étais aucunement. C'étaient des pensées vaines, en nuages, qui étaient émues par les sens des yeux et des oreilles. Elles ne venaient pas de chez moi. Je ne savais pourtant ni d'où je venais, ni où j'allais, ni ne pouvais peser et considérer ce qu'on me demandait. Ce sont de légers effets que les sens produisaient d'eux-mêmes, comme d'un usage. Ce que l'âme y prêtait, c'était en songe, touché bien légèrement, et comme léché seulement et arrosé par la molle impression des sens. Cependant, mon assiette était à la vérité très douce et paisible. Je n'avais affliction ni pour autrui, ni pour moi. C'était une langueur et une extrême faiblesse, sans aucune douleur. Je vis ma maison sans la reconnaître. Quand on m'eut couché, je sentis une infinie douceur à ce repos, car j'avais été vilainement tiraissé par ces pauvres gens qui avaient pris la peine de me porter sur leurs bras par un long et très mauvais chemin et s'y étaient lassés deux ou trois fois les uns après les autres. On me présenta force remèdes, de quoi je n'en reçus aucun, tenant pour certain que j'étais blessé à mort par la tête. C'eût été, sans mentir, une mort bien heureuse, car la faiblesse de ma raison me gardait d'en rien juger, et celle du corps d'en rien sentir. Je me laissais couler si doucement et d'une façon si molle et si aisée que je ne sens guère autre action moins pesante que celle-là était. Quand je vins à revivre et à reprendre mes forces, quand enfin mes sens reprirent vigueur, qui fut deux ou trois heures après, je me sentis tout d'un train rengagé aux douleurs, ayant les membres tout moulus et froissés de ma chute, et en fus si mal deux ou trois nuits après, que j'en pensais remourir encore un coup, mais d'une mort plus vive, et me sens encore de la secousse de cette froissure. Je ne veux pas oublier ceci, que la dernière chose en quoi je me pus remettre, ce fut la souvenance de cet accident, et me fit redire plusieurs fois où j'allais, d'où je venais, à quelle heure cela m'était advenu, avant que de le pouvoir concevoir. Quant à la façon de ma chute, on me la cachait en faveur de celui qui en avait été cause, et m'en forgeait-on d'autres. Mais longtemps après, et le lendemain, quand ma mémoire vint à s'entr'ouvrir et me représenter l'état où je m'étais trouvé en l'instant que j'avais aperçu ce cheval fondant sur moi, car je l'avais vu à mes talons et me tint pour mort, mais cette pensée avait été si soudaine que la peur n'eut pas loisir de s'y engendrer. Il me sembla que c'était un éclair qui me frappait l'âme de secousse et que je revenais de l'autre monde. Ce conte d'un événement si léger est assez vain, n'était l'instruction que j'en ai tirée pour moi. Car à la vérité, pour s'apprivoiser à la mort, je trouve qu'il n'y a que de s'en avoisiner. Or, comme dit Pline, chacun est à soi-même une très bonne discipline, pourvu qu'il ait la capacité de ses pieds de près. Ce n'est pas ici ma doctrine, c'est mon étude.
Et n'est pas la leçon d'autrui,
c'est la mienne. Et ne me doit-on pourtant savoir mauvais gré si je la communique? Ce qui me sert peut aussi par accident servir à un autre. Au demeurant, je ne gâte rien, je n'use que du mien. Et si je fais le fou, c'est à mes dépens. Et sans l'intérêt de personne. Car c'est en folie qui meurt en moi, qui n'a point de suite. Nous n'avons nouvelles que de deux ou trois anciens qui aient battu ce chemin, et pourtant nous ne pouvons dire si c'est tout à fait en pareille manière à cette-ci, n'en connaissant que les noms. Nul depuis ne s'est jeté sur leurs traces. C'est une épineuse entreprise, et plus qu'il ne semble, de suivre une allure si vagabonde que celle de notre esprit, de pénétrer les profondeurs opaques de ses replis internes, de choisir et arrêter tant de menuisères de ses agitations. Et est un amusement nouveau et extraordinaire qui nous retire des occupations communes du monde, oui, et des plus recommandées. Il y a plusieurs années que je n'ai que moi pour viser à mes pensées, que je ne contrôle et n'étudie que moi. Et si j'étudie autre chose, c'est pour soudain le coucher sur moi, ou en moi, pour mieux dire. Et ne me semble point faillir si, comme il se fait des autres sciences, sans comparaison moins utile, je fais part de ce que j'ai appris en cette-ci, quoique je ne me contente guère du progrès que j'y ai fait. Il n'est description pareille en difficulté à la description de soi-même, ni certes en utilité. Encore se faut-il coiffer, encore se faut-il ordonner et ranger pour sortir en place. Or, je me pars sans cesse, car je me décris sans cesse. La coutume a fait le parler de soi vicieux et le prohibe obstinément en haine de la vantance, qui semble toujours être attachée au propre témoignage. Au lieu qu'on doit moucher l'enfant, cela s'appelle les naser. Fuir la faute mène au vice. Je trouve plus de mal que de bien à ce remède. Mais quand il serait vrai que ce fût nécessairement présomption d'entretenir le peuple de soi, je ne dois pas, suivant mon général dessein, refuser une action qui publie cette maladive qualité, puisqu'elle est en moi, et ne dois cacher cette faute que j'ai non seulement en usage, mais en profession. Toutefois, à dire ce que j'en crois, cette coutume a tort de condamner le vin parce que plusieurs s'y enivrent. On ne peut abuser que des choses qui sont bonnes. Et croit de cette règle qu'elle ne regarde que la populaire défaillance, ce sont brides à veaux, desquels ni les saints, que nous ayons si hautement parlé d'eux, ni les philosophes, ni les théologiens ne se brident. Ni moi, quoique je sois aussi peu l'un que l'autre. S'ils n'en écrivent à point nommé, au moins, quand l'occasion les y porte, ne feignent-ils pas de se jeter bien avant sur le trottoir? De quoi traite Socrate plus largement que de soi? À quoi achemine-t-il plus souvent les propos de ses disciples qu'à parler d'eux, non pas de la leçon de leur livre, mais de l'être et branle de leur âme? Nous nous disons religieusement à Dieu et à notre confesseur, comme nos voisins à tout le peuple. Mais nous n'en disons, me répondra-t-on, que les accusations. Nous disons donc tout, car notre vertu même est fautière et repentable. Mon métier et mon art, c'est vivre. Qui me défend d'en parler selon mon sens, expérience et usage? Qui l'ordonne à l'architecte de parler des bâtiments non selon soi, mais selon son voisin, selon la science d'un autre, non selon la sienne? Si c'est gloire de soi-même, publier ses valeurs, que ne met Cicéron en avant l'éloquence d'Hortensius, Hortensius celle de Cicéron? À l'aventure, entendent-ils que je témoigne de moi par ouvrage et effet, non nûment par des paroles? Je peins principalement mes cogitations, sujet informe qui ne peut tomber en production ouvragère. À toute peine le puis-je coucher en ce corps aérien de la voix. De plus sages hommes et des plus dévots ont vécu fuyant tous apparents effets. Les effets diraient plus de la fortune que de moi. Ils témoignent leur rôle, non pas le mien, si ce n'est conjecturalement et incertainement échantillon d'une montre particulière. Je m'étale entier. C'est un squelettos où, d'une vue, les veines, les muscles, les tendons paraissent, chaque pièce en son siège. L'effet de l'atout en produisait une partie. L'effet de la pâleur ou battement de cœur une autre, et douteusement. Ce ne sont mes gestes que j'écris. C'est moi, c'est mon essence. Je tiens qu'il faut être prudent à estimer de soi, et pareillement consciencieux à en témoigner. Soit bas, soit haut, indifféremment. Si je me semblais bon et sage tout à fait, je l'entonnerais à pleine tête. De dire moins de soi qu'il n'y en a, c'est sottise, non modestie. Se payer de moins qu'on ne vaut, c'est lâcheté et pusillanimité selon Aristote. Nulle vertu ne cède de la fausseté, et la vérité n'est jamais matière d'erreur. De dire de soi plus qu'il n'en y a, ce n'est pas toujours présomption, c'est encore souvent sottise. Se complaire outre mesure de ce qu'on est, en tomber en amour de soi indiscret, est à mon avis la substance de ce vice. Le suprême remède à le guérir, c'est faire tout le rebours de ce que ceci ordonne, qui, en défendant le parler de soi, défendent par conséquent encore plus de penser à soi. L'orgueil gît en la pensée. La langue n'y peut avoir qu'une bien légère part. De s'amuser à soi, il leur semble que c'est se plaire en soi, de se hanter et pratiquer, que c'est se trop chérir. Mais cet excès naît seulement en ceux qui ne se tâtent que superficiellement, qui se voient après leurs affaires, qui appellent rêverie et oisiveté de s'entretenir de soi, et s'étoffer et bâtir, Faire des châteaux en Espagne, s'estimant chose tierce et étrangère à eux-mêmes.
Si quelqu'un s'enivre de sa science,
regardant sous soi, qu'il tourne les yeux au-dessus vers les siècles passés, il baissera les cornes, y trouvant tant de milliers d'esprits qui le foulent aux pieds. S'il entre en quelque flatteuse présomption de sa vaillance, qu'il se rappelle les vies de Scipion, d'Épaminondas, de tant d'armées, de tant de peuples, qui le laissent si loin derrière eux. Nulle particulière qualité n'enorgueillira celui qui mettra en même temps en compte tant d'imparfaites et faibles qualités autres qui sont en lui, et au bout, la nihilité de l'humaine condition. Parce que Socrate avait seul mordu vraiment au précepte de son Dieu de se connaître, et par cette étude était arrivé à se mépriser, il fut estimé seul digne du nom de sage. Qui se connaîtra ainsi, qu'il se donne hardiment à connaître par sa bouche.